Merci Thomas, rendez-vous à midi et demi pour le journal au complet. Bonjour à tous. Ce midi, la Grande Table se met à table avec un chef multi-étoilé, Pierre Gagnaire, qui publie aujourd'hui Les Copains d'abord chez Solar Éditions. Un livre de recettes simples à préparer, une cuisine maison élaborée au fil des saisons et en accord avec le décor, campagne, montagne, mer ou encore fête. À Paris, rue Balzac, il gère par ailleurs plus d'une vingtaine d'adresses dans le monde et garde un œil sur tout. Portrait d'un homme gourmand et pressé, anxieux et généreux, jusqu'à midi et demi. Pierre Gagnaire rejoint à partir de 12h55 par le philosophe Olivier Assouli, qui s'interroge lui sur le procès fait au goût dans nos cultures occidentales, une invitation à réhabiliter tout en sensibilité ce cinquième sens réputé primitif. À table, une émission à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Bonjour Pierre Gagnère.
Bonjour.
Bonjour. En arrivant, vous étiez fasciné par cette pendule qui tourne et ces minutes qui passent.
Oui.
Sachez qu'on a 25 minutes maintenant. J'ai 25 minutes pour vous cuisiner,
oui.
En fait.
Oui.
Ouais. C'est beaucoup ?
C'est court, je trouve.
Qu'est-ce qu'on peut faire en 25 minutes ?
Faire connaissance.
Voilà. Dans une cuisine aussi ?
Oui, on peut. Une omelette, c'est... Autour d'une omelette, c'est possible, 25 minutes. Enfin... Coup de blanc compris, pain grillé, voilà.
Mais 25 minutes, c'est déjà trop pour faire réchauffer un plat tout préparé.
Ah non, ça, si c'est une daube, si c'est des plats, si c'est une blanquette, si c'est même un couscous, si c'est des paupiettes de veau, enfin, non, mais c'est, 25 minutes, c'est un bon timing.
C'est un bon format. Mmh. Bien. Mmh. Eh ben, on va tenter quand même de créer ce plat ensemble jusqu'à midi et demi. Des cuisines familiales, les vôtres, Pierre Gagnère, à la cuisine familiale, telle que vous la présentez dans ce livre de recettes, Les Copains d'abord, 80 recettes faciles et conviviales. C'est autour de ces grandes tablées amicales que vous avez, vous, appris à transformer la contrainte en plaisir, que vous avez donné du sens à votre métier.
Non, pas du tout. Au contraire. Ce livre, j'aurais pas pu l'écrire il y a 10 ans. Le temps a passé, je suis le pivot d'une famille recomposée, avec une femme que j'aime, que je connais depuis 15 ans, qui a 3 enfants, que j'ai connu tout petit, dont je me suis quand même pas mal occupé, malgré mon travail. Peut-être plus que mes propres fils, qui aujourd'hui sont plus des gamins, qui sont des adultes, hein, qui ont des enfants. 4 petits-enfants, et tout ce petit monde, c'est des mondes, en fait, qui sont un peu mes différentes vies. Et aujourd'hui, j'ai du plaisir et un devoir de nourrir ces tribus, qui d'ailleurs ne se côtoient pas forcément, mais qui, dans tous les cas, sont importantes à mon cœur. Et puis, le temps faisant, ma cuisine est plus apaisée, mon discours est plus construit, j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai enfin réussi à boucler une espèce d'histoire de cuisine qui au départ me plaisait pas, en faisant quelque chose à travers un restaurant étoilé, une cuisine très sophistiquée, très flamboyante, alors que ce livre, il traduit le contraire, les photos le prouvent, c'est pas très bien réalisé, c'est un petit peu... Débraillé, je dirais. Et c'est évidemment tout ce que j'aurais été incapable de vivre, puisque pour moi, la cuisine, ça n'a pas été quelque chose que j'aimais. C'était quelque chose que j'ai aimé quand j'en ai fait un moyen d'exprimer des sentiments, d'exprimer un savoir-faire que je voulais construire à travers mon mental et à travers des mains... Pas très à droite, à vrai dire.
Ça veut dire que vous avez mis du temps avant de vous offrir le temps de cuisiner pour ceux que vous aimez.
Ah, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mmh. Il est important que je construise un vrai univers de cuisine qui soit mon univers. Ça, c'est pas ma cuisine. C'est une cuisine détendue, un peu, qui est celle des copains, qui est celle de moments où la cuisine, finalement, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe autour de la table. Voilà. La cuisine, elle est le support à l'amitié. Et pour moi, c'était pas ça, la cuisine.
À la table des copains, ça veut dire que vous ne défendez pas la même chose que dans la cuisine de votre restaurant ?
Au bout du compte, si. Je défends la même chose. L'amitié, la convivialité, l'amour de l'autre, l'envie de faire plaisir, la tendresse. Mais j'étais pas assez amoureux de la cuisine pour la vivre comme je peux la vivre aujourd'hui à travers ce livre. Pour moi, la cuisine, c'était... Comme je n'aimais pas ce métier, ça a été pour moi une thérapie, la cuisine. Ça a été un vrai moyen d'expression. Là, c'est pas une expression, c'est un moyen de faire plaisir. Basta, c'est tout. La cuisine, c'est que je défends, c'est autre chose. Ça va plus loin, c'est plus profond, c'est plus fort, c'est plus... Voilà, c'est plus personnel, c'est plus dangereux aussi. Parce que un steak au poivre avec des frites, si on est français, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper. Si on part sur une aiguillette de colvert qui est enrobée d'un petit sucre de chocolaté avec un peu de tamario, c'est autre chose. C'est une autre façon de cuisiner. C'est une version plus fine, plus pointue, plus interrogative.
Qu'est-ce que vous n'aimiez pas au départ, Pierre Gagnère ?
Ce que j'aimais pas, c'était la violence du métier. Mes parents étaient dans ce métier. On ne mangeait jamais à l'heure. J'emmenais mes petits-enfants au cirque, un de mes petits-fils au cirque dimanche. Je claquais des dents, mais comme un malade, parce que j'avais peur de pas être à l'heure. Parce que j'ai tellement souffert de ça, enfant. On n'était jamais à l'heure. Et puis on mangeait jamais au bon moment. On dérangeait tout le temps. Des parents fatigués, un père énervé, presque violent. Tout pour me déplaire, quoi. Tout pour me déplaire. Mais j'ai pas eu le choix. J'étais l'aîné de la famille, ça je l'ai dit 100 fois. Et quand on était né de ma génération, c'est comme une ferme. On reprend la ferme la ferme des parents, quoi. Donc j'étais programmé à 5 ans avec une toque sur la tête. J'ai la photo, j'ai la preuve. Mon sort était scellé. Et ce sort, je m'en suis dépatouillé. Et puis un jour, les choses se sont éclairées par différentes rencontres et des petits événements qui m'ont prouvé que la cuisine, finalement, j'allais y trouver mon compte. Mais entre y trouver mon compte et y trouver du plaisir, ça a pris des années.
De ne pas reproduire. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés et les cuisiniers, assurément, les plus toqués. C'est ce qu'on a l'air de comprendre aussi à travers ce dessin que vous faites de la figure du père, de son autoritarisme aussi, de ce stress inhérent à sa pratique du métier. De ça, vous avez réussi à vous dégager et à ne pas transmettre ça à vos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un très bon cuisinier. Est-ce que vous êtes aussi un bon père ?
Ouais, ils n'ont plus besoin de moi, mes enfants. Ça les fait rire. Non, je n'ai pas aidé à mon père. Non, clairement, j'étais absent, j'ai été... Mais c'était le prix à payer pour... je pense que dans la vie, on ne peut pas mener tous les combats. J'ai mené un combat qui était celui d'exister en tant qu'homme. Et je pense que j'ai dû y arriver à peu près, puisque... J'ai d'excellentes relations avec eux. Donc, ils ont leurs blessures et j'espère qu'avant de disparaître, ils pourront exprimer tout ce qui leur a manqué. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à la quarantaine et ils commencent à verbaliser leur souffrance, alors qu'avant, ils disaient rien. Parce que quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'on a en soi, au fond, déjà c'est la moitié du mal par la parole. Il arrive à sortir, quoi. Voilà. Mais bon, alors aujourd'hui c'est pas mal. Je me pose pas trop de questions. Aujourd'hui, moi, mon problème c'est de bien faire, de pas tricher. Parce qu'on parle de ma famille, mais ma famille elle est large. J'ai des gens qui me font confiance, j'ai beaucoup de gens qui sont autour de moi et j'ai des déceptions, quelques-unes. Mais moi je vis avec des types, des jeunes gars, enfin ou moins jeunes d'ailleurs, puisque mon chef historique est avec moi depuis 38 ans. J'ai mon équipe parisienne de base, mais ils sont là depuis plus de 20 ans. J'ai la chance d'avoir une espèce de ciment là qui s'est construit au fil du temps, mais qui est pas un ciment contraignant, un ciment prisonnier, c'est un ciment vivant, un ciment qui permet de ses racines, elle nous permet justement d'avancer, de se développer et se développer pas pour faire du fric, pour faire du plaisir. Et puis comme moi je suis un peu comme un jazzman, c'est-à-dire que je vais de formation en formation et puis j'interprète ma cuisine à Tokyo, à Séoul, à Nîmes, à Londres et avec des ingrédients qui évoluent pas tant que ça finalement. Mais j'arrive, ça m'amuse énormément, ça me passionne même de donner plein de versions de produits modestes ou au contraire onéreux.
Alors on y vient, 80 recettes réunies dans ce livre, les copains d'abord, à la campagne, au bord de mer, à la montagne, en ville. Et pour les fêtes, on parlait de vos enfants. Là, justement, aujourd'hui, ce midi, jour de Noël, vous les recevez tous autour d'une grande tablée. Qu'est-ce que vous leur cuisinez ?
Eh ben, d'abord, j'essaie de faire quelque chose qui soit prêt, déjà. Je l'ai appris avec le temps. Lorsque vous cuisinez à la maison, il faut surtout faire en sorte que ça ne se transforme pas en parcours du combattant. Donc, il faut anticiper et il faut faire un plat convivial qui va pouvoir être mitonné. Je trouve que ces plats, pour le coup français, qui sont la blanquette de veau, qui peuvent être un chapon, bien sûr le découper, bien sûr le préparer, de manière à ce qu'il y ait le minimum de gestes à faire au dernier moment. Voilà. Et puis après, bon, il y a des gratins, alors il y a les cardons, il y a tous les légumes d'hiver, le topinambour, le salsifis, les cerfeuils tubéreux, le marron, la châtaigne, enfin, le céleri rave, il y a plein de légumes, facile à cuisiner, on fait une belle purée, voilà. Et puis après, il y a les salades d'hiver, les endives, la trévise, le radicchiot, des noix, des pignons, des raisins blonds, quelques raisins frais. Voilà. Donc une belle salade, et puis on peut commencer, tout bêtement par... Les gens aiment bien les huîtres. Alors les huîtres, on peut les accompagner de petites tartines de rillettes de sardines. Sardines en boîte, évidemment, parce que les sardines en boîte, moi, c'est absolument délicieux. Ça peut être même un poisson que vous avez fait cuire, qui est poché. Le saumon, c'est pas très cher. Il y a des très beaux saumons bio. Vous le faites pocher dans un bouillon très acidulé. C'est froid. À côté, vous faites une mayonnaise dans laquelle vous incorporez des pamplemousses, pamplemousse rose, pamplemousse thaï, peut-être un peu d'avocat. Peut-être, pourquoi pas, quelques dés de mangue. Voilà, il y a... Bon, je peux vous donner... Ça revient presque... Ça peut devenir même presque...
Toute une année, en fait.
Mais non, mais c'est... Moi, je déroule des recettes, si vous voulez, sans aucune difficulté. Il faut juste, après, hop, arrêt sur image, et qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, il y a un moment, il faut arrêter. Et c'était la difficulté que j'avais, c'est que je m'arrêtais jamais avant. Je produisais constamment.
Alors, on sait, Pierre Gagnac, que le produit est très important pour vous. Les produits rares, on va écouter les mots du critique gastronomique Jean-François Habert. C'est lui qui a fait entrer votre pochette de Saint-Pierre au poivron doux dans la légende à la fin des années 70. Il est décédé depuis, écoutons-le.
Les algues sont très communément dans la cuisine japonaise et en France, elles provoquent souvent des réactions de rejet, de répulsion. D'ailleurs, je raconte ça un peu dans des restaurants bretons.
Les ormeaux aiment ça, vous dites qu'ils se jettent sur les algues.
Absolument. Mais je pense que quand les algues sont traitées par des cuisiniers du type d'Olivier Rollinger à Cancale, c'est absolument parfait, c'est formidable, c'est grandiose.
Et l'ail des ours en liberté,
c'est Michel Brasse. Mais c'est de l'ail sauvage et c'est de l'ail qui est effectivement tout à fait comestible et tout à fait intéressant et peut-être certainement plus digeste que l'ail cultivé dans les potagers communs.
Oui, et l'ache, c'est quoi ça ?
L'ache, c'est l'ache ou la livèche, c'est aussi une herbe sauvage qui est l'ancêtre du céleri. Et ça, on voit beaucoup ça dans les... Mais ça m'a intéressé aussi parce que peu de cuisiniers utilisent encore la livèche ou l'ache, mais par exemple, dans un pays qui est très démuni, semble-t-il, dans ses traditions gastronomiques, qui a plus souffert de grandes famines que de hautes gastronomies, qu'est l'Irlande, pas mal de cuisiniers irlandais travaillent la livèche.
Et l'aubergine en dessert, c'est banal.
Délicieux.
Ah, c'est très intéressant et c'est une des recettes faciles du livre.
Est-ce que vous avez vos produits rares, vous aussi, comme Jean-François Habert,
ces produits qu'il vient d'évoquer étaient des produits rares il y a 10 ans. Il parle de l'ache, il parle de la livèche, il parle des algues. Aujourd'hui, les algues, c'est complètement différent de ce que dit Jean-François il y a 10 ans. Aujourd'hui, les algues sont rentrées, on en voit dans la trompe de la grande surface, dans les bistrots. Aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui fait la rareté, la particularité, la singularité d'un plat ? Est-ce que c'est la rareté du produit ou c'est celle de la composition, de l'assemblage ?
Non, c'est le talent du cuisinier. ce n'est que le talent du cuisinier. Parce que la cuisine de bistrot, comme la grande cuisine, enfin, ce qu'on peut appeler grande cuisine, même chez Silmo est un peu, enfin, oui, la cuisine, ce que je défends, quoi. Tout se joue dans le geste du cuisinier. Tout se joue dans l'attention, dans son talent, tout simplement. La cuisine, c'est ça qui est terrible. Vous mettez 10 personnes avec les mêmes produits, il y en a 2 qui vont faire absolument quelque chose de formidable, et puis 6 seront un truc moyen, et puis 4 feront n'importe quoi. C'est la rareté. Aujourd'hui, il y a plus beaucoup de produits rares. Avant, je me souviens quand j'étais gamin, quand j'étais commis à Paris dans les années 70. J'allais dans les, je venais donc de ma province, hein, de Saint-Étienne, et je passais devant la boutique de Fauchon. Il y avait des mangues, il y avait des ananas, il y avait des litchis, il y avait des cerises. Mais aujourd'hui, c'est d'une banalité totale. Aujourd'hui, on trouve de ça partout. Donc, tout ce qui était insolite il y a 10 ou 20 ans, aujourd'hui, on le trouve pratiquement partout. C'est vraiment l'homme qui cuisine qui fait la différence.
Parce qu'on a appris ce mois-ci, par exemple, la mort d'André Daguin, figure oui. du sud-ouest. On oui. a souvent dit qu'il avait inventé le magret de canard. En réalité, oui. il lui a donné ses lettres de noblesse, oui. justement parce qu'il a, su recréer, ou en tout cas donner un goût particulier à ce magret, c'est ça ?
Non,
il n'a rien inventé.
Non, il n'a rien inventé, mais il a une idée absolument géniale. C'est de lever ces magrets de canard sur l'oie et de les traiter comme des steaks. C'est extrêmement facile à faire, c'est délicieux. Et c'est vrai que ce magret de canard, on l'a trouvé, moi le premier, je l'ai utilisé énormément il y a 30 ans, 35 ans. C'est comme un rôti, moins cher, enfin, ça a toutes les vertus d'un steak, quoi. C'est gras, c'est goûteux, il y a une très belle mâche. Et c'est vrai que les cuisiniers, souvent, ils sont, peut-être parfois leur insu, ils sont les instigateurs d'une tendance, d'une mode, qui après va... Aujourd'hui, vous trouvez des kits de cuisine moléculaire dans les grandes surfaces.
Et ça fait penser à votre coffre de canard mi-sauvage bourré de citron vert et frotté de piment berbère, rôti au four. Il a une histoire, coffre de canard.
L'histoire, c'est le piment berbère. Et donc il y a plus ce plat, évidemment, je ne le fais plus. C'est déjà ancien, ça a, à mon avis, plus de 20 ans, peut-être plus d'ailleurs. C'était quelqu'un que j'avais rencontré, un berbère, qui m'a dit un mélange d'épices. À l'époque, j'avais pas la curiosité de lui demander comment c'était fait, juste que je recevais 100 grammes, et c'était extraordinaire parce que quand on mettait ça au creux de sa main, fermait les yeux, on était dans le désert que d'ailleurs que quelques années après j'ai connu, j'ai découvert et que j'ai adoré. Ouais.
France Culture, vous écoutez La Grande Table, une émission qui porte bien son nom aujourd'hui avec vous, Pierre Gagnaire, chef cuisinier, notre invité à l'occasion de la parution de Les Copains d'abord, 80 recettes faciles et conviviales, dont une partie spéciale fête, c'est chez Solar Édition. Vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi.
Qu'est-ce que t'as oh. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Ouh, didi, boudou, doudou, 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 c'est mon désir. 100%. Ça, c'est bon plan. Toujours la même histoire, c'est la même folie. Un petit ledoux, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Petit les tout. want. Poudou-di-boudou-dou-dou. Avec, divec, divec. De, la mayonnaise.
Le trompettiste et chanteur de jazz américain David Roll Eldridge, plus connu sous le nom ou le pseudo de Little Jazz, figure marquante du swing avec ce morceau enregistré en France avec des musiciens français en 1950 sur des paroles françaises, cette petite laitue avec mayonnaise. C'est
charmant.
Hein, c'est bon,
c'est charmant. Fondant,
c'est bon. Alors comment vous classez la cuisine parmi les autres disciplines artistiques? C'est un art mineur pour vous ou majeur, Pierre Gagnaire?
La cuisine, c'est quand même un artisanat. Et puis, il y a quelques cuisiniers qui en font un art. Et ces cuisiniers qui en font un art ne sont pas meilleurs que les artisans. Ils sont pas plus forts, ils sont pas plus... Ils sont juste un peu singuliers. Dans tous les cas, elle est devenue peut-être plus artistique, la cuisine, depuis qu'on en parle. Et ça a commencé, il faut le dire clairement, avec Goemio, des gens comme Jean-François Habert. Habert, qui faisait des petits textes, qui étaient des perles, des bijoux. Et ce qui a éveillé la créativité des cuisiniers, dont je fais partie, c'est lorsqu'on a commencé à parler de la cuisine. Parce que moi, Herbert, c'est le premier qui a parlé de mon travail, et il a commenté justement cette pochette de Saint-Pierre au poivron doux, et la façon dont il en a parlé, je me suis dit, ah mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça. Parce que je cherchais ce que je voulais, je ne sais pas ce que je... Et là, j'ai donné... c'est ça qui a déclenché beaucoup de choses en moi, c'est les mots. Et là, j'en ai fait... effectivement, une histoire artistique. Mais, on va pas surévaluer la cuisine, mais elle était longtemps sous-évaluée. On a vraiment pris les cuisiniers pour des nigauds, pour des gens moins que rien. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré, on longeait les murs. Aujourd'hui, la cuisine, effectivement, elle est plus fine, elle est faite par des gens qui ont plus cultivé, plus intelligent, plus raffiné. Mais ça, c'est aussi grâce à la presse, grâce à tout ce qui se raconte autour de la cuisine. Mais il faut rester à sa juste place. Je ne veux pas me comparer ni à Soulages, ni à Miles Davis. Hein.
Et pourtant, vous voyez, c'était assez beau à voir vos mains, les mains de l'artiste au Palais de Tokyo dans une exposition Le Bord des Mondes en 2015. Vos mains filmées par François Floïc. Artisanat ou art, cette distinction, Hélène Darroze la reprenait aussi récemment autour de notre grande table, en estimant que pour elle, la cuisine était un art plus... un artisanat, plutôt qu'un art. Oui. Hélène Darroze, parce que c'est une femme, je vous propose d'écouter sur la distinction qui a longtemps perduré entre les cuisiniers hommes et femmes, les mots d'André Daguin dont on parlait tout à l'heure, c'était en 97.
Les femmes font à manger pour deux ou trois personnes. Elles sont sous la dictature de leur mari, de leur amant, de leur fils, de leur famille, et elles font toujours les mêmes trucs pour les mêmes gars. Tandis que les hommes font la cuisine quand c'est la fête. Alors, ou c'est une catastrophe, mais tout le monde s'en fout parce que c'était la fête, ou c'était bon, et des centaines de gens le répètent. La starisation, c'est ça et pas autre chose. Il faut repeindre la cuisine quand les hommes ont fait la cuisine. Mais c'est une fête, donc les gens sont disposés à dire « Ah, un tel est un bon cuisinier ». Alors qu'on dit d'une femme, c'est bon ce qu'elle fait.
Avant la guerre, je ne sais pas, votre père, par exemple, n'était pas une star de la cuisine. Et pourtant, il devait faire bien la cuisine également, non?
Parce que la voiture n'existait pas.
Pardon?
La voiture n'existait pas. Alors, il n'y avait pas de tourisme. Les cuisiniers de cette époque étaient dans le même état que les femmes à la maison, c'est-à-dire qu'ils faisaient la cuisine pour toujours le même petit cercle de gens. Quand tout d'un coup les clients ont pu se diversifier, sont venus de loin en voiture, alors là ça a éclaté, puis la presse s'est développée, donc on a starisé, mais on a starisé des coiffeurs aussi à une époque, rappelez-vous.
Voilà. Ah, il était formidable, André. Moi je ne l'ai pas beaucoup connu, mais c'est un type, vraiment un type bien. C'est un type bien. Puis c'est vrai que c'est cette faconde... Ça, c'est le bonheur de notre pays français, ces accents qu'il faut conserver. On est sur un si petit pays, un si petit territoire, avoir toutes ces expressions vocales qui donnent tellement de charme et de relief à nos mots.
C'est vrai que votre génération, avec les Rollinger, les Passard, les Ducasse, et toi les jeunes, vous concernant dans les années 80, elle a quand même fait une révolution dans l'assiette. Et c'est aussi pour ça que vous avez tous à votre manière été starisés, les chefs cuisiniers. La cuisine, ça devrait être que du partage, de la convivialité. Mais la réalité, c'est que c'est aussi une entreprise qui engage et qui vous engage. Cette famille, puisqu'on en parle, les copains d'abord, vous a-t-elle aidé aussi à tenir dans les moments difficiles quand il y a 20 ans, votre établissement, notamment de Saint-Étienne, a fermé ses portes, mis en liquidation? Vous êtes souvent revenu sur cet échec stéphanois, cette blessure qui semble à peu près réparée aujourd'hui. Cette famille, elle vous a aidé à tenir dans les moments difficiles?
Oui, bien sûr. Je veux pas m'étendre là-dessus, mais évidemment. Moi, j'ai des, dans mes amis, courage Fillon, quoi. Il y en a amis comme conjoints. Mais ce qui m'a aussi aidé à tenir, je dois dire, c'est une espèce de foi inébranlable dans ce. Pourtant, je pense qu'être plutôt modeste et je pense pas me surévaluer, mais à aucun moment j'ai mis ma cuisine en cause. Sinon, je coulais, quoi. Et quand j'ai recommencé, je n'avais qu'un objectif, c'était reprendre là où j'étais tombé et ne rien changer parce que j'étais persuadé que ce que j'avais à dire avait de la valeur, voilà. Et ce qui m'a sauvé, c'est de pas bouger une virgule dans mon comportement professionnel, dans ma gestuelle, dans mon projet. Et puis quand même, faut le dire aussi, le Michelin m'a soutenu, le Michelin m'a remis mes étoiles. Hier, je disais à un ami, il était très surpris de ça. Je pense que ça aurait été plus dur de perdre mes étoiles que de faire faillite. C'est toute l'ambiguïté de notre métier. Et pourquoi il y a des gens, ils viennent dingues avec ça? C'est parce qu'on est tellement engagé, on est tellement relié à cette histoire de guide Michelin, quoi, qui nous tient aux tripes, quoi. Alors aujourd'hui, il y en a qui s'en débarrassent.
C'est votre confrère Marc Vera hein, qui a notamment attaqué en justice le guide après qu'il ait rétrogradé son restaurant dans sa dernière édition. Oui. Ça peut aussi faire beaucoup de mal.
Oui, mais il faut accepter aussi. Enfin, accepter. C'est aussi humain. Hein, on est dans du subjectif total. Ouais.
Aujourd'hui, Pierre Gagnère, c'est une vingtaine d'établissements dans le monde, avec des étoiles, des macarons, de Paris à Londres. Et c'est ce livre, Les Copains d'abord, Pierre Gagnère, qui paraît chez Solar Éditions. Merci beaucoup à vous. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de la Grande Table. On va être rejoint par un deuxième invité, un philosophe, Olivier Assouli. On parlera notamment du goût avec vous. À tout de suite.